Voilà, en cette journée, je veux souhaiter une bonne fête à tous les papas. Je me fête aussi une bonne fête à moi. Non, c'est important, hein. Souvent il y en a un peu plus pour les mamans que les papas, alors faut savoir en profiter de temps en temps. Quelqu'un a dit que la fête des pères, c'est comme la fête des mères, sauf pour le cadeau, ça coûte moins cher. Voilà, ce matin, j'aimerais partager justement quelque chose à approprier. Bien sûr, tout le monde est concerné, et puis je pense que Dieu saura répartir sa parole en fonction de chacun, mais j'aimerais doser un peu plus ce matin sur justement les papas. Et j'ai intitulé mon message « Quand papa est de garde ». Trois petits points. Parce que tout peut arriver quand papa est de garde. Je ne sais pas si toutes les mères ici sont vigilantes ou une petite peur sur le côté quelque part dans leur tête lorsqu'elles laissent tout seul leur mari avec les enfants, j'en sais rien. Mais souvent, il y a cette interrogation qui revient, qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, il y a plusieurs, j'ai regardé, il y avait quelques photos sur Internet, justement, quand papa est de garde, il peut arriver toutes sortes de trucs. Il y a un peu moins de vigilance parfois. Il y a un peu moins de deux mois de cela, je me suis retrouvé seul à la maison avec ma petite fille et on jouait dans le jardin. Puis à un moment donné, donc on a une baie vitrée et elle sort dehors. Puis moi, donc je joue avec elle, donc je sors aussi. Et voilà qu'elle re-rentre à l'intérieur et elle me ferme la baie vitrée sous le nez. Et me voilà dehors, elle dedans, aucune clé, pas de téléphone, rien. Alors là, la réflexion, là, j'ai tourné autour de la maison, puis effectivement, toutes les fenêtres étaient verrouillées, toutes les portes étaient verrouillées, comme on fait normalement, de toute façon. C'est fait pour ça. Puis là, je me suis dit, bon, je peux peut-être aller chez le voisin, essayer d'appeler Marion. Non, ça va pas être une bonne idée. On va essayer de trouver une solution par moi-même. Puis à force de réfléchir, je me suis souvenu que la fenêtre du toit de la maison était ouverte. Alors j'ai grimpé dans un arbre, puis sur le toit, puis j'ai escaladé comme je pouvais pour finir quasiment sur la tête dans ma maison. Bref, j'ai réussi à m'en sortir, mais en tout cas, il peut arriver toutes sortes de choses quand papa est de garde. Ne vous inquiétez pas, j'en prends soin de ma fille, hein. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, j'aimerais partager cela, mais en termes spirituels et en termes de rôle, ce que Dieu aussi a confié aux parents, aussi au papa, c'est de, je pense, ce rôle de gardien, ce rôle de repère, ce rôle, vous savez, un peu comme Dieu se présente à nous, et il est un père pour nous, ses enfants, et il se présente comme cette forteresse, comme cette tour de garde, comme celui qui dit « abritez-vous sous mes ailes ». Et je crois qu'on devrait être ce repère, qu'on devrait être ces ailes-là, qu'on devrait être cette forteresse où finalement les enfants trouvent une sécurité, trouvent quelqu'un de réel, quelqu'un qui est réellement là, quelqu'un qui intervient, quelqu'un qui agit, quelqu'un dont le cœur est tout entier pour ses enfants, comme notre Père est tout entier pour nous. On a une image incroyable, et s'il y a bien un exemple qu'on peut suivre, c'est l'exemple de Dieu notre Père. Il y a une relation qui est très belle en la parole de Dieu, c'est la relation de Dieu le Père avec Jésus, son Fils. Et je crois que, à la même mesure qu'il nous faut être à l'image de Jésus, c'est notre modèle. Je crois particulièrement que, en tant que père, nous pouvons prendre comme modèle le Père céleste, notre Père qui est parfait, afin à notre tour de pouvoir avoir le même état de cœur, la même interaction, les mêmes actions, les mêmes paroles vis-à-vis des autres et de nos enfants. Et c'est vrai que si on devait comparer à travers les siècles, à travers les cultures, l'image du père et de la mère, souvent l'image de la mère est est un peu meilleure. La société a été ce qu'elle a été, elle a pris les décisions qu'elle a été, et c'est vrai, entre ceux qui ont lâché le foyer, entre ceux qui sont partis parce qu'ils ont mis une fille enceinte, entre ceux qui étaient là mais bien préoccupés par tellement d'autres choses, l'histoire et les siècles n'ont pas forcément doré un blason qui était d'une grande valeur vis-à-vis des pères. Mais je crois que particulièrement que la parole de Dieu honore les pères et veut les amener dans toutes leurs responsabilités parce qu'ils sont appelés à briller, ils sont appelés à être cette image, ils sont appelés à être cette tour qui rassure et qui amène une sécurité à l'intérieur du foyer et de la famille. Alors, parce que ça doit commencer par quelque chose, et je crois pertinemment, et on va le voir ensemble, on va lire un texte dans Luc chapitre 15, ça commence par le cœur. Tout commence par là. Si notre cœur y est, le reste, normalement, est censé suivre. Alors, on va prendre dans Luc chapitre 15, c'est une histoire qu'on connaît très bien, Luc chapitre 15, à partir du verset 11. L'histoire du fils prodigue. Donc Jésus qui parle, il va porter cette parabole, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans des champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen, je m'arrêterai là. Une attitude qui commence par le cœur. Encore une fois, comme je le disais, cette relation entre Dieu le Père et Jésus son Fils est une des relations les plus belles et les plus exemplaires, celle qu'il nous faut bien sûr imiter. Et j'aime cette déclaration lorsque Jésus va être baptisé par Jean, cette voix va se faire entendre. « Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Toute mon affection. Même Dieu le Père n'avait pas peur de cacher son affection pour Jésus. Il y avait une réelle dimension et il y avait une réelle volonté de le faire savoir. De le faire savoir qu'il y a un attachement, qu'il y avait un attachement. Et j'aime cette prière de Jésus dans Jean 17 quand il va dire à son Père « Que le monde connaisse que tu les as aimés. » Comme tu m'as aimé. C'est tellement réjouissant. Moi, ça me réjouit de savoir que Dieu m'aime comme il aime Jésus. Dieu m'aime au même titre que quelqu'un qui est parfait. Pour tout parent, si on avait un enfant proche de la perfection et un enfant très loin de la perfection, il y aurait souvent un espèce de combat à l'intérieur. Parce qu'il serait, entre guillemets, plus forcément naturellement facile d'aimer l'un ou l'autre. Dieu ne fait pas cela. La Bible nous dit que Dieu nous aime parfaitement. Lorsque Dieu nous regarde, il dépose le même amour et il a envers nous ce même amour, cette même dimension que lorsqu'il voit son Fils. Ça, c'est tellement bénéfique, tellement une bénédiction de savoir cela. Alors peut-être que oui, Jésus fut plus facile à aimer, qu'importe. Dieu m'aime pareil. Dieu le Père nous aime. Et c'est pour cela qu'il a donné son propre Fils. Il voulait nous le faire savoir. Voici de quel amour je vous aime. Il est tellement important de comprendre ça afin qu'à notre tour, nous puissions véhiculer cet amour. Nous sommes appelés à véhiculer ce même amour que Dieu nous donne. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et si je ne suis pas capable d'aimer par mes propres efforts, je suis capable d'aller chercher l'amour que Dieu lui me donne. Et même si je n'ai pas été baigné dans un bain d'amour, même si je n'ai pas reçu, même de savoir la conception de qu'est-ce qu'aimer, qu'est-ce qu'apporter une affection, je suis capable d'être changé, renouvelé par celui qui est l'amour personnifié. Dieu m'aime. Dieu m'aime et ça change tout. Ça change mon attitude envers les autres, ça change mon attitude envers ma famille. Et en tant que père, ça change mon attitude envers mes enfants. Il faut qu'il le sache. Ce n'est pas simplement parce que je le sais qu'ils le savent. Ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir, ça doit se voir, ça doit s'entendre. Il faut qu'il y ait cette manifestation d'amour. Et heureusement que Dieu nous a pas dit, Dieu dit du haut du ciel, je vous aime. Non, il l'a prouvé. Il a mis en œuvre ses paroles. Et c'est identique pour chacun d'entre nous. Donc il doit avoir cette préoccupation de cœur. Cette préoccupation de cœur qui ne s'arrête jamais parce qu'on ne s'arrête pas d'être parent. Même lorsque les enfants quittent la maison, ça ne s'arrête pas. Il y a toujours ce cœur qui nous rappelle qu'on est parent. Et j'aime cette parabole qu'on vient de lire parce qu'on voit, et Jésus à travers cet exemple nous montre le cœur du Père. Notre cœur, bien sûr, est cœur du Père Céleste, mais je trouve qu'à travers cette parabole, on peut y trouver de beaux enseignements concernant notre propre rôle en tant que Père. On voit donc ce fils qui se dirige vers son Père et qui lui demande l'héritage. Ça, c'est un peu gonflé quand même. C'est quasiment souhaiter la mort de son Père. Les richesses, ça se donne quand vous mourrez, pas avant. Mais voilà que le Père ne dit rien sans... L'enfant a l'air majeur, ça a l'air d'être plutôt un adulte, en âge de prendre ses responsabilités. Là. On va dire que le père va partager ses biens. Et l'autre fils aussi a une part. Hein. On y reviendra peut-être rapidement tout à l'heure, mais il a sa part aussi dans l'héritage. Donc il reçoit lui aussi, sauf que lui il reste avec l'héritage. Et le deuxième fils lui prend l'héritage et s'en va. Il le dilapide, il va faire plein de choses, mais ce que je ne trouve pas dans la parole de Dieu, c'est que lorsque le fils décide de prendre cet héritage, parce qu'au moment qu'il demande l'héritage, il n'est pas censé partir, il ne dit rien là-dessus à son père. C'est quelque temps après, il prend finalement cet héritage et il s'en va. Mais on ne trouve aucune parole de la part du père qui est condamnatoire. On ne trouve aucune parole qui dit « si tu t'en vas, ne reviens jamais ». On ne trouve aucune parole qui va le mépriser, qui fait en sorte, c'est comme si tu claques la porte, elle est fermée définitivement. Non, on trouve un homme qui laisse son fils partir et qui se tient à la porte attendant son retour. Et voilà que le fils s'en va, dilapide ses biens, puis le jour où il n'y a plus rien arrive. Et il se retrouve dans une détresse et la Bible nous dit qu'il se remémore la maison de son père, ce qu'il se passe dans la maison de son père. Il se remémore les bénédictions, le pain qu'il y a en abondance même pour les serviteurs. Mais à aucun moment, il ne voit d'objection à revenir à la maison. Il va dire, j'irai vers mon père. Oui, il se sent rabaissé, il y a une signe de lui-même qui est complètement anéanti et il préfère déjà anticiper en proposant ses services comme mercenaire plutôt que fils, qu'importe. Mais il ne trouve à aucun moment un père, lui dit, ne reviens jamais. Mais il trouve une porte, déjà même dans ses pensées, une porte ouverte. J'irai vers mon père, c'est possible, c'est possible. Et le voilà qui se lève et qui se dirige vers la maison de son père. Et la Bible nous dit qu'avant même qu'il arrive, déjà de loin, le père le voyant court vers lui, se jette dans ses bras. Et alors que le fils essaye de faire le discours qu'il avait préparé, voilà que son père ne le laisse même pas finir et lui dire « Non, tu retrouves ta position de fils ». J'aime cette attitude parce qu'elle nous montre à quel point Dieu nous aime. Et à quel point notre Père Céleste, malgré nos va-et-vient, malgré parfois les fois où on tombe au plus bas, la porte n'est jamais fermée. Dieu nous attend et Dieu nous attend les bras grands ouverts. Et nous sommes appelés à avoir cette même attitude envers nos enfants. Vous savez, à un moment donné, viendront où ils devront prendre leurs décisions. Et parfois, ça peut faire mal, parce que pour X situation, puis tu entends tellement de parents dire « voici ce que j'ai enseigné, j'ai tout fait pour que ça se passe bien, puis voilà les choix qu'il prend. » Ça va tellement à l'opposé de tout ce qu'on a pu lui dire. Je me souviens de cette maman qui me disait « mais qu'est-ce que je dois faire? Mon fils veut partir dans l'homosexualité, est-ce que je dois continuer à l'aimer? Est-ce que je dois continuer à lui parler? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis anéanti !» une préoccupation de cœur, je dis continue à l'aimer. La porte doit toujours rester ouverte, toujours. Oui, c'est dur. Puis parfois, ça va tellement à l'opposé de tout ce qu'on a espéré, tout ce qu'on a pu miser. Mais l'important, c'est notre état de cœur. L'important est notre cœur envers nos enfants. Dieu, lui, ne nous fermera jamais la porte, alors ne fermons jamais la porte. Dieu nous aime absolument. Dieu nous consolera, Dieu va nous fortifier, Dieu va nous relever. Et Dieu nous donnera toujours l'espoir parce qu'il est celui qui renverse l'impossible. Et lorsque nous levons les yeux vers lui, il y a toujours une issue, toujours une possibilité. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors que nous puissions avoir toujours cette préoccupation de cœur, il n'a pas demandé à être remboursé, il n'a pas demandé de compensation. Il aurait pu accepter la décision du fils d'être mercenaire. Il dit, tu vas rembourser tes dettes, puis le jour où tu auras remboursé l'héritage, tu reviendras en position de fils. Non, il y a un accès de cœur qui est là. Aucune parole de condamnation. Il est accueilli comme un fils. Parce que le Père se réjouit davantage de ce que le Fils est revenu que tout ce qu'il a pu faire. L'important, c'est qu'il est revenu. L'important, c'est qu'il est là et qu'il y a à nouveau un accès qui se fait. Alors que Dieu nous aide à garder cette porte de notre cœur ouverte. Je me souviens de cette histoire d'une jeune fille qui raconte son témoignage et disait qu'à l'âge de l'adolescence, il y a eu vraiment des conflits très forts avec ses parents. Puis un jour, elle a fini par claquer la porte et partir très loin. Puis, bien sûr, elle a mené sa vie comme elle le voulait, sans donner aucune nouvelle. Puis un jour, ses parents vraiment lui manquaient. Puis, mais il y a ce combat. Est-ce que c'est moi à moi de faire le premier pas? Et puis, j'y arriverai jamais. Puis finalement, le temps a passé. Et puis, finalement, elle va faire une lettre à ses parents. Elle va écrire dans ce courrier, tel jour à telle heure, parce que le train passait devant leur maison. Elle dit, je vais passer en train devant la maison. Si la porte est ouverte, s'il y a le moindre espoir, la moindre chance que vous puissiez m'accepter de nouveau, alors juste mettez un mouchoir blanc à la fenêtre et je saurai que c'est bon. Et si je ne vois rien, je ne m'arrêterai pas, je continuerai ma route. Et alors qu'elle était dans le train, elle raconte ceci, que tellement peur de ne rien trouver, de ne pas trouver cette issue, cette porte qui est encore ouverte. Et elle va raconter son histoire à l'homme en face d'elle. Elle va demander à cet homme, regardez pour moi, s'il vous plaît. J'ai trop peur. Et alors, elle lui décrit la maison. Puis, cet homme, à un moment donné, regarde et lui dit, vous devriez réellement regarder dehors. Voilà que la jeune fille se tourne vers la fenêtre de ce train et voit la maison couverte de draps blancs, ainsi que le jardin. Reviens à la maison. Dieu, c'est comme cela qu'il nous attendra toujours. Bien sûr, un jour, la porte sera fermée. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que c'est un temps de grâce. Bien sûr, ce ne veut pas dire que c'est une licence à faire n'importe quoi. Mais je veux faire taire tous ceux qui pensent que la grâce diminue en fonction de nos erreurs. La grâce est entière et totale, elle était accomplie à la croix par Jésus. Et nous ne méritions pas avant. Et ce n'est pas parce qu'on en cumule après qu'on le mérite moins. La grâce est une grâce, justement. Alors qu'on a cet accès libre à notre Père céleste, un Père qui nous aime, un Père qui nous accueille les bras grands ouverts, un Père qui ne sera pas là pour nous détruire, mais pour nous relever. La Bible nous dit que sept fois le juste tombe, mais il se relève. L'Éternel l'en délivre toujours. Il y a cette préoccupation de cœur, qui devrait nous conduire à une complicité. J'aime cette relation aussi dont Jésus parle avec son Père dans Jean 5. Il dira ceci, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Pareillement, il y avait ce modèle et il y a toute cette tranche d'âge dans la vie des enfants où ils vont imiter leurs parents. Parfois c'est bien, parfois ça peut être embarrassant. Parce qu'ils ont besoin de repères, ils ont besoin de ces modèles et ils vont chercher de toute manière un modèle, en vous ou en quelqu'un d'autre. Ils vont chercher des repères parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'un sens, ils ont besoin d'imiter quelqu'un, ils ont besoin de cette tour qui est comme un guide pour leur vie. Et c'est pour cela qu'il nous faut aller plus loin que d'être des géniteurs, plus loin que d'être des pères physiquement présents. Il nous faut être émotionnellement présents aussi. Il faut cet attachement-là. Il faut cette relation, il faut connaître, il faut parler, il faut interagir avec eux, il faut qu'il y ait ce rapprochement, il faut qu'il y ait ce partage, que ce soit dans leur joie, dans leur peine, dans leurs défis, qu'importe. Parfois, ça, vous savez, leur petit monde nous semble tellement dérisoire face à tout ce qu'on peut vivre qu'on peut tellement facilement balayer tout ce qu'ils vivent. Mais ils ont tout en autant besoin de notre attention. Tout autant besoin qu'on s'arrête et qu'on les écoute, tout autant besoin qu'on se réjouisse avec eux ou qu'on pleure avec eux, mais qu'on soit là. Pas juste physiquement, mais notre cœur y soit de façon entière. Et même si parfois il n'y a pas beaucoup de temps parce qu'on est dans une ville de Paris où parfois le rythme ne permet pas d'avoir des dizaines et dizaines d'heures par semaine avec nos enfants, mais que le temps que j'ai, ce soit vraiment un temps où j'ai investi le meilleur, où je laisse des repères, où je laisse une trace, où je laisse une marque qui leur servira. Que Dieu nous aide parce que nous sommes appelés à prendre toute notre place avec les enfants. Une préoccupation de cœur, une préoccupation dans toute cette complicité, mais aussi une préoccupation dans la discipline. Ici, je ne parle pas d'autoritarisme. Je ne parle pas d'abus dans les coups. Je parle d'établir des repères, d'être un guide. Vous savez, Adam n'a rien dit lorsque Ève fut tentée. Il aurait dû parler. On reproche tout à Ève, mais Ève a bon dos. Adam aurait dû dire quelque chose. Il est important de ne pas se cacher. Il est important d'anticiper les choses. Pour mes propres parents, parfois, avec beaucoup de délicatesse, ils essayaient d'amener certains sujets, puis je voyais que des fois, ils étaient mal à l'aise par rapport à certains sujets, mais je crois que ça a été bénéfique. Parce que quelqu'un d'autre, de toute façon, allait me l'enseigner. Quelqu'un d'autre allait m'en parler de toute façon. Mais au moins, je savais à quoi je devais faire face. Au moins, je savais quel repère avoir. Et c'est important. C'est important d'avoir des limites. Je lisais là tout le travail d'un psychologue qui a travaillé partout dans le monde entier, qui est maintenant assez âgé, qui a fait un peu un récapitulatif de tout ce qu'il a pu rencontrer. Son travail, c'est principalement ciblé sur les jeunes adultes. Et après avoir rencontré des milliers et milliers de jeunes adultes à travers le monde, il va dire ceci, ce qui est très parlant et ce qui est à la fois paradoxal dans une société qui réclame sa liberté, qui réclame aucun interdit. Il dira la majorité à plus de 99%. Ces jeunes me disaient en face à face, j'aurais aimé que mon père me dise non. J'aurais tellement aimé. Bien sûr, sur le moment, j'ai tout fait pour pousser la limite. Bien sûr, sur le moment, j'aurais jamais voulu qu'ils me disent non. Mais maintenant, je me rends compte que j'aurais aimé entendre. Non. Et je crois que prendre son rôle, prendre sa part, c'est dire les choses avec amour, avec bonté, compassion, mais dire les choses et être de véritables tours, de véritables. Ils n'ont pas l'air d'avoir quelque chose de flou ni de vague, mais qu'ils savent, qu'ils aient des repères clairs. Et nous sommes là aussi pour leur partager la parole de Dieu. La Bible nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge de la correction l'éloignera de lui. Ici, il n'est pas dit que les enfants ne valent rien, qu'il n'y a rien de bon en eux, ni pour valider le fait de taper dessus. Ce n'est pas ça. Mais la réalité, c'est que c'est comme une espèce, je dirais, l'enfant naît, il peut partir dans tous les sens parce qu'il a besoin de repères. Et c'est à nous de dévancer les choses, d'être proactif là-dedans, d'être un référent pour eux, parce que de toute façon, comme je le disais, quelqu'un d'autre va s'en charger sinon. Proverbe 17:6, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Et là, j'aimerais aussi faire une parenthèse par rapport à l'Église, parce que je crois que l'Église a aussi son rôle à jouer. En tant que parent, on ne doit pas se déresponsabiliser de son rôle et dire bah, « c'est pas grave, le dimanche matin, il y a un enseignement pour eux, donc c'est pas grave si je ne le fais pas. » Non, non. Mais l'Église doit aussi prendre son rôle. Beaucoup de familles qui arrivent à l'Église et le père est absent, mère monoparentale ou l'inverse, qu'importe, mais où les enfants vont trouver des repères, vont trouver des personnes qui vont être des véritables modèles pour eux, des exemples qui valent la peine d'être suivis. Et dans tout ce contexte, l'Église a son rôle à jouer. Et j'aimerais encourager aussi tous les jeunes hommes ou hommes à s'investir au niveau des enfants. Ne voyez jamais ce ministère comme quelque chose de moindre ou comme quelque chose de « oh, ça appartient aux femmes ». Non, c'est faux. Ils ont tout autant besoin d'hommes qui sont des modèles et des repères aussi. Alors, je veux encourager, si vous avez ça à cœur, ne vous laissez pas diminuer ou penser que c'est moindre ce que vous allez faire. C'est tout autant bénéfique. Et n'oubliez jamais, Jésus n'a même pas fait mention de ça pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Mais il dira ceci pour ceux qui parlent aux enfants. Malheur à vous si vous en scandalisez un, parce qu'il vaudra mieux qu'une meule vous soit mise autour du cou et que vous soyez jeté dans la mer. C'est quand même fort, hein ? Donc, il y a une responsabilité, parce que les enfants absorbent tout. Vous savez, quand on grandit, on met des filtres en tant qu'adulte. On a des barrières, on sait filtrer l'information. Un enfant absorbe énormément de choses, et ça le marque. Alors qu'il puisse absorber l'exemple de modèles qui sont à la ressemblance de Jésus, afin de dire, moi, je veux être comme cela. Moi, je veux suivre cette voie. Moi, je veux vivre ce que sa vie, pas vos paroles, parce que c'est votre vie qui va parler beaucoup plus que vos paroles. Il faut que votre vie suive vos paroles, mais que vous soyez des exemples. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des exemples. Et je vais terminer en parlant d'une dernière des préoccupations. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense la plus importante, qui est la préoccupation spirituelle pour nos enfants. J'aime la conduite de Job. Job chapitre 1, il nous est dit ceci au verset 1. « Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. » Voilà quelqu'un qui se souciait de la vie spirituelle de ses enfants. Un homme qui dressait un autel pour chacun de ses enfants. Dressait un temps de prière pour chacun de ses enfants. Un homme qui est concerné par la spiritualité et l'avenir spirituel de ses enfants. C'est tellement important. Vous savez, il vaut mieux une prière préventive que curative. Prenez le temps avec vos enfants. Oui, en tant que père aussi, pour leur parler de Dieu. Que déjà dans votre vie et dans tout ce que vous faites et ce que vous êtes, que cela leur donne envie de se rapprocher de Dieu. Parce que ça commence par là. Vous pourrez leur raconter toutes les merveilles du monde sur Dieu. Si votre vie n'est pas un exemple, vous allez les éloigner. Puis je ne dis pas ça avec condamnation pour qui que ce soit, parce que je pense qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour intercéder celui qui peut tout. Mais nous devons en être conscients. Et nous devons prendre nos responsabilités. Prier pour eux. Donne à Dieu l'occasion de te parler au sujet de tes enfants. Dieu parle. Dieu parle. Et je crois que si on écoute, Dieu saura nous dire des choses sur nos enfants. Dieu saura nous parler, Dieu saura mettre des paroles, Dieu saura parfois nous donner des révélations, non pour faire des espions, mais pour intervenir, pour être une source de bénédiction. Dieu en est capable. Dieu en est réellement capable parce que Dieu s'intéresse aussi à nos enfants. Et malgré tout l'amour qu'on peut leur apporter, Dieu les aime plus que nous. Alors oui, il y a une préoccupation. J'ai invité l'équipe de louange à venir. J'aimerais juste raconter deux témoignages rapidement concernant ma propre vie. J'ai grandi dans une famille chrétienne et une des dames qui, je n'ai pas eu, mes grand-mères ne sont pas vraiment à Dieu. Et j'ai eu une grand-mère spirituelle, entre guillemets, qui était souvent à la maison, qu'on hébergeait souvent, celle qui a élevé un peu mon père. Et elle me racontait vraiment tous les exploits. Elle me parlait toujours de Dieu. Et je me souviens, le soir, je la faisais venir pour qu'elle me raconte, parce qu'elle vivait des choses incroyables avec Dieu. Et je me souviens de tous ces moments. Et puis un jour, les années ont passé. Puis je sais qu'elle priait pour moi, priait pour moi, priait pour moi. Puis un jour, dans un moment où ça n'allait pas, mes parents n'étaient pas au courant, personne n'était au courant, un moment très difficile. Je me souviens un jour, le téléphone a sonné et mon père a répondu, puis c'était elle. Et elle lui a dit, passe-moi Benjamin. Et il m'a passé le téléphone et elle m'a dit, toi, tu ne vas pas bien. Dieu m'a dit que tu ne vas pas bien en ce moment. Alors j'ai quelque chose à te dire de sa part. Et elle est tombée vraiment pile au moment qu'il fallait. Je crois que Dieu parle. Dieu veut agir. Et nous devons être les premiers canaux en tant que parents pour nos enfants. Et je me souviens de cette autre partie de ma vie dans un temps assez particulier où ma mère est tombée gravement malade et ça a duré 3 ans et demi dans les hôpitaux. Et une époque pour moi, en pleine adolescence, très difficile. Et ça a amené toutes sortes de situations. Et à un moment donné, j'ai été hébergé par une famille de l'église parce que mon père, c'était délicat pour lui. Ma mère était constamment à l'hôpital et avec la charge de l'église. Puis c'est une famille qui a pris soin de nous. Puis moi, j'ai commencé à mettre mes valeurs dans bien d'autres choses, des choses que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu n'agissait pas, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, qu'importe. Mais je commençais lentement la pente. Et je me souviens qu'à l'âge de 14 ans, à un moment donné, j'ai été mis face à un choix. Un choix terrible. Et je me souviens, j'étais sorti du collège. Il y avait juste un pont après le collège et j'ai pris ce pont-là. Et ce soir-là, cette fin de journée-là, je devais prendre une décision. Prendre une décision, mais cette décision allait peut-être radicalement changer ma vie. Et si je prenais cette décision, cela allait peut-être même m'emmener à ne plus jamais revoir mes parents. Et je me souviens, parce que j'étais pris par tout ça et c'était devenu de plus en plus clair, c'était comme si j'avais plus le choix, c'était comme si quelque chose me poussait à prendre cette décision et à anéantir toute ma vie. Et finalement, j'étais là avec ce combat et je me souviens sur ce pont-là, au moment de choisir deux chemins qui étaient là, puis tout pouvait changer à ce moment-là. Je me souviens de devoir commencer à emprunter ce chemin et à ce moment-là, j'ai vu mes parents. Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu cette image de mes parents. Et j'ai entendu mes parents prier. Et je me souviens de ce moment parce que c'est comme si j'étais aveuglé, comme si j'étais plus moi-même, comme si je ne pouvais plus prendre une décision de façon raisonnable, quelque chose de raisonnable. Et puis j'avais 14 ans, puis j'étais pris là-dedans. Et finalement, je vois ça, et puis j'entends mon père prier, j'entends ma mère prier, et puis Dieu me fait la grâce d'entendre leur prière. Je pense pas qu'ils se priaient à ce moment-là, mais je sais une chose, c'est qu'ils priaient pour moi. Et j'ai entendu leur prière, et alors que j'ai entendu prière, j'ai senti la main de Dieu descendre sur moi. Et je me souviens que tout ce qui m'oppressait est parti subitement. Puis à ce moment-là, tout est devenu limpide. Tout est devenu clair, et à ce moment-là, le choix était clair. Il fallait que je rentre à la maison. Et j'ai pris cette décision parce que quelqu'un s'est tenu pour moi. Parce que quelqu'un qui sont mes parents, que je bénis parce qu'ils ont toujours été un modèle pour moi. Ce n'est pas des parents parfaits, mais ils ont toujours essayé d'apporter le meilleur. Et parce qu'ils ont fait une véritable différence dans ma vie. Alors je voudrais encourager chaque parent ici. Je voudrais encourager chaque papa, en particulier en cette fête des pères. Prenez votre rôle à cœur. N'oubliez jamais celui que vous priez. N'oubliez jamais qui il est. Et n'oubliez jamais son amour pour vos enfants. N'oubliez jamais son désir d'agir dans la vie de vos enfants. Et je m'adresse maintenant rapidement, et je conclue avec ça. Reprendre. Chacun d'entre nous, nous avons ce Père céleste-là. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas c'est quoi vos luttes, qu'elles soient familiales, qu'elles soient auprès de vos enfants, qu'elles soient vos enfants qui sont partis, il n'y a plus du tout de relation, que ce soit au niveau de votre employeur, au niveau de votre couple, qu'importe. Ce que je sais, c'est que vous avez un Père céleste et qu'on a un Père céleste qui prend soin de ses enfants. Un Père qui a tout donné et qui continuera à donner le meilleur pour nous. Alors, lorsqu'on lève les yeux vers lui, il n'est jamais trop tard. Il est celui qui crée un chemin dans le désert. Didier l'a rappelé, capable de créer un chemin en pleine mer. Il est l'Éternel, il fait ce qu'il veut. Alors qu'on puisse s'approcher de notre Père. Peut-être qu'on va juste prendre un temps de prière, quelques minutes. Peut-être que vous allez venir devant Dieu en tant que papa. Peut-être que vous allez venir en tant que maman. Peut-être en tant que couple. Peut-être dans votre situation, quelle qu'elle soit, mais vous allez vous adresser à votre Père. Et ce matin, vous allez lui dire, tu es celui qui fait des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'approche de lui avec foi. Que Dieu renouvelle notre vie, que Dieu renouvelle notre foi et que quelque chose se passe dans notre vie. Que nous repartions d'ici, le cœur encouragé, le cœur consolé, le cœur rempli d'espérance dans tout ce que Dieu est capable de faire. Amen. On va courber nos fronts. Alléluia. Peut-être qu'on peut se lever ensemble, on va se lever tous ensemble et on va commencer à prier là où vous êtes. L'équipe de louange va nous conduire dans ce chant et que on puisse proclamer ces paroles comme une déclaration. Seigneur, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Et j'aimerais que tu déclares la grandeur de Dieu sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton, sur ton couple, sur ton épouse. J'aimerais que toutes les mamans priez pour vos enfants, priez pour votre mari. Tous les papas, priez pour le rôle que Dieu vous a donné pour vos enfants. Chaque couple, priez pour votre couple. Tous ceux qui n'ont pas d'enfants, priez pour l'avenir de vos enfants. Priez pour ce que vous pouvez être auprès de d'autres enfants. Parce que l'Église doit jouer aussi son rôle. Mais qu'on puisse appeler à l'aide celui qui nous a dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et celui qui frappe, on ouvre, on lui ouvre la porte. » Alléluia. Dieu veut entendre ta prière ce matin. Dieu veut entendre ta prière s'élever. Et Dieu veut te démontrer combien il est celui qui peut tout. Alléluia. Alléluia.